pour ce débat. Alors, je démarre avec vous, professeur Claude Abbé. On sait que, traditionnellement, le scrutin présidentiel mobilise plus de monde que les autres types de scrutins. Mais pensez-vous que l'appel au boycott du MRC ait joué un rôle quelconque dans la participation ?
Assurément, puisque le MRC c'est militant, on ne peut pas dire que le MRC n'est pas c'est militant et que ça n'ait joué aucun rôle. Mais de là à lui accorder le rôle prépondérant ou le rôle le plus significatif, de mon point de vue, il faut faire une mise en perspective dans l'histoire de la participation au scrutin à caractère local au Cameroun. Et vous allez vous rendre compte que la barre des 70% a rarement été dépassée. Et vous vous rendrez également compte que la dernière élection présidentielle n'avait pas dépassé la barre des 54% du taux de participation. Et donc, de ce point de vue, c'est un élément, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un invariant qu'on enregistre dans le contexte de la participation électorale au Cameroun, qu'il n'y a pas déjà dans la plupart du temps un engouement. Plusieurs raisons peuvent être avancées pour le dire tout au moins pour cette fois-ci. On a, vous-même, vous l'avez évoqué, la crise dans la partie dite anglophone, qui est là. Et puis, il y a cette désaffection politique peut s'expliquer aussi par le fait que beaucoup de Camerounais, aujourd'hui, ont une impression que la classe politique en général, et pas seulement le RDPC, parle d'un certain nombre de choses qui ne les concernent pas.
D'accord, on pourra, si vous le permettez, revenir dans tout cela plus en détail. Alors, Ellie Smith, vous êtes également sur place. Hein, ceux qui choisissent de ne pas se rendre aux urnes mettent souvent en cause la sincérité du scrutin. Est-ce que vous avez l'impression que les élections de dimanche se sont déroulées dans la transparence ?
Non, dans la transparence, non, parce que nous avions eu les cas, par exemple, à Kumba, un monsieur qui a été arrêté par la police et une bonne chose, qui avait voté 89 fois. Et on a la situation ici que les militants du PCRN se sont plaints. Dans la transparence, non. Dans le calme, oui. Et quand une élection, personnellement, je pense que pour gagner, par exemple, ce qu'on appelle l'insurgency dans le nord-ouest et du sud-ouest, c'est peut-être le grand nord, il faut deux choses, l'argent et la démocratie. Mais quand la démocratie ne reflète pas, ou les élections, ou ceux qui seront élus, ne reflètent pas le désir de la population, il y a un problème.
Alors, Morgan, le MRC avait-il raison de boycotter ces élections? On parle tout de même d'une soixantaine de partis ayant pris part à ce scrutin. Est-ce que c'est une bonne stratégie?
Bah écoutez, on a eu une position assez neutre hein, sur cette question. L'idée, c'était de dire que nous sommes en République, il fallait avoir une attitude républicaine. Et en l'occurrence, on pensait que ceux des Camerounais qui ont choisi de participer à cette élection, ils en avaient parfaitement le droit. Il fallait respecter leur choix. De même pour ceux qui ont décidé de la boycotter, puisqu'il n'est pas inscrit dans notre loi. L'obligation pour un citoyen de participer à une élection. Et il n'est non plus inscrit dans notre loi l'interdiction d'interdire à des gens d'appeler au boycott. Donc après, chacun sa stratégie. Moi, je crois que les raisons qui ont été énoncées, hein, qu'on a entendues de part et d'autre, notamment la situation du pays, avec la multiplicité des théâtres d'opération, c'est des arguments qui tiennent la route. On aurait quand même aimé aussi que ces arguments soient évoqués il y a un an à rebours lors de la présidentielle. Nous, dans l'ensemble, nous considérons que aujourd'hui, en réalité, notre pays a un besoin urgent d'aller au rassemblement, d'aller à la réconciliation de ses citoyens. Parce que toutes les façons, vous voyez bien que cette élection, on est en train de rien arranger. J'entendais quelqu'un parler de transparence tout à l'heure. Moi, j'ai envie de m'inscrire dans la même veine que lui, en disant qu'on ne peut pas parler de transparence à partir du moment où même le parti au pouvoir aujourd'hui est en train de se pouvoir en recours pour annulation parce qu'ils estiment qu'il y a eu des tripatouillages dans certains bureaux, ce qui fait un peu sourire quand même cette ironie du sort.
D'accord,
donc voilà, on est dans une position qui est très
Oui, on va attendre de voir comment tout cela va évoluer. Alors, professeur Claude Abbé, il y a aussi, on a parlé du MRC, mais il y a le parti de la réconciliation nationale du Cameroun de Cabral Libi qui, lui, a battu campagne et a participé aux élections. C'est un jeune parti, on parle de beaucoup de ce parti. Quelle est la stratégie, justement, de ce parti? Est-ce que vous pensez que cela a payé?
Avant de parler de la stratégie de ce parti, il faut vous dire que le parti de M. Kamto rejoint dans l'appel à l'abstention le parti de Kawala, hein, CPP, qui a été refusé avant pour de la présidentielle, qui est resté cohérent avant la présidentielle même, qui avait dit si les problèmes dans le parti anglophone ne sont pas résolus, elle ne va pas aux élections, que ce soit les présidentielles comme les élections locales. Je vois des gens qui font une emphase particulière sur le cas MRC. C'est pas le seul parti qui est appelé à cela. D'accord. Deuxième élément, pour la question que vous posez, il me semble que ce parti, qui était jusque-là un parti méconnu, bien qu'il existait, M. Cabral Libi a contribué à partir de la notoriété qu'il a pu acquérir dans ses diverses interventions médiatiques. Et de sa stratégie, sa manière d'opérer en allant vers la jeunesse pour amener cette jeunesse-là à davantage s'impliquer et à être concernée par la chose politique. Il me semble que cette jeune formation politique a plutôt une stratégie qui me semble payante aujourd'hui, compte tenu du fait que lui-même, M. Cabral, dit, d'après les estimations qui viennent, aurait gagné dans la circonscription où il s'est présenté et serait élu député. De la même manière, au niveau du littoral, d'une grande ville comme le littoral, on voit une percée de cette organisation.
D'accord.
On se rend compte également qu'il y a un élément important qu'il faut ajouter. C'est que cette formation politique ne va pas se limiter, comme on l'a vu pour un certain nombre de partis politiques, à une sphère communautariste de son dirigeant. On voit également que dans la partie du Septentrion, où le parti est lui-même né,
d'accord, il y a un certain professeur nombre. Oui, on a bien compris. Si vous le permettez, Élie, parlons quand même un peu du SDF. Quel est aujourd'hui son poids dans l'échiquier politique depuis la retraite de son leader historique, John Fondry? Est-ce qu'il s'est bien comporté, ce parti, pour ces élections?
Non, pour le moment, il ne s'est pas bien comporté parce que, premièrement, les fiefs historiques du SDF sont en guerre, et l'autre partie qui est l'Ouest et le littoral, malheureusement, beaucoup de ces militants, parce que là, il faut qu'on dise les choses comme il se doit, par sympathie tribale, se sont ravivés vers le MRC. Donc ça fait que le SDF n'a pas pu bien se comporter depuis. Mais le SDF, depuis que ton chairman, à cause de maladie, s'est un peu retiré, il n'a plus la vigueur, a aussi contribué, mais pas uniquement ça. Le problème fondamental du SDF est que le SDF n'a pas pu se adapter au changement démographique. Mais de l'autre côté, le SDF aussi paye parce que le SDF a joué un rôle républicain, parce que le SDF a choisi de rester dans la République. Le SDF a choisi, par exemple, de soutenir le dialogue national et refuser le boycott. Et le SDF paye ça. Mais si c'est ça, donc je crois que c'est un sacrifice qui est important pour que le Cameroun reste uni.
D'accord. Alors Morgane, est-ce qu'on est en train d'assister à une recomposition du paysage politique au Cameroun? Vous-même, vous avez lancé votre propre mouvement politique.
Oui, bien sûr qu'il y a, il y a une reconfiguration du, de la politique, en tout cas du personnel politique au Cameroun. Moi, ce qui m'a frappé personnellement, c'est de voir l'implication de la jeunesse, hein, par, dans les personnes qui concouraient donc à cette élection, sachant que nous, il y a quelques mois à rebours, nous avions appelé en lançant, en mettant en place un casting politique, à l'érection de, nouveaux visages dans la scène politique, en considérant que la politique n'était pas que l'affaire des apparatchiks, et qu'aujourd'hui, si on est dans un élan de démocratie participative, de se dire qu'on questionne le bilan de la majorité actuelle, plus de 4 décennies d'échecs complets, il faut peut-être aujourd'hui penser à renouveler le personnel, les figures qui sont appelées à incarner la politique. Donc effectivement, et nous d'ailleurs, bien qu'on n'y ait pas participé à cette élection, nous avons appelé à un large vote pour le renouvellement du personnel politique, pas simplement le rajeunissement, parce qu'il y a des gens, sans forcément être des jeunes, qui peuvent avoir des choses à apporter à leur pays. Absolument. Qui sont mus par une espèce de patriotisme.
Voilà. D'accord. On a peut-être quelques temps pour aller en break. Le temps peut-être pour nous de poser au professeur Abbé cette question. Le président Biya a annoncé que les conseillers régionaux seront élus pour la première fois et ils seront choisis par les conseillers municipaux. Vous considérez cela comme une avancée vers plus de démocratie ?
Et puis chaque fois qu'il y a élection, de mon point de vue, il y a une avancée vers la démocratie. Maintenant, c'est la manière dont cette élection est organisée. C'est-à-dire que si avant tous ces éléments, il y avait eu une mise à plat, une remise à plat du code électoral qui reste un contentieux dans la pratique politique au Cameroun aujourd'hui, la pratique électorale, de mon point de vue, on pourrait dire véritablement qu'on est en face d'une avancée. Mais il s'agit d'une avancée en limitante, en raison justement
de
ce climat.
D'accord.
En raison de ce climat qui s'habite, où on a un certain nombre qui continuent de protester contre les dispositions de ce code-là qui, visiblement, sont des dispositions qui posent de réels problèmes.
D'accord. Alors, nos téléspectateurs ont été nombreux à réagir sur la page Facebook de VO Afrique. Je vous en propose juste quelques-uns. Alphonse Mbouaki, à Kinshasa, nous dit l'appel au boycott du MRC de Maurice Kamto a été vain car le système RDPC est assis sur la dictature. Le président Paul Biya a tout verrouillé. Il est impossible que l'opposition prenne le pouvoir. Kevin Kayinda, toujours à Kinshasa, boycotter une élection est une mauvaise décision car cela permet au pouvoir de s'accrocher. Et puis Omar Boulalé à Djibouti écrit « Sans paix sociale et un partage économique équitable, il n'y aura pas de stabilité au Cameroun ou partout ailleurs. » Et puis voilà quelques-unes des réactions. Merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause. Seconde partie de Washington Forum. Abdourahmane Dia, toujours à la présentation. Alors, nos invités à Yaoundé, le professeur Claude Abbé, sociologue, directeur de l'Institut de recherche socio-anthropologique, toujours à Yaoundé, notre confrère Ellie Smith, et à Paris, Morgan Palmer, fondateur du mouvement progressiste MP3. Alors, l'opposant camerounais Maurice Kamto est en visite à Washington. Le leader du MRC, qui a été emprisonné pour s'être proclamé vainqueur de la présidentielle de 2018, avant la proclamation des résultats officiels, appelle à la libération des leaders sécessionnistes en vue d'un règlement du conflit. La crise anglophone est d'ailleurs l'une des raisons évoquées pour justifier son appel au boycott des élections. Je vous propose de suivre un extrait de son entretien avec John Lyndon dans les locaux de la Voix de l'Amérique.
C'est depuis 2012 et dans notre projet de société que nous avons dit qu'il y avait un problème anglophone et qu'il fallait le résoudre par le dialogue. Le plus terrible et le plus triste, c'est que ce sont des Camerounais qui tirent sur d'autres Camerounais. Qu'est-ce que nous avons fait? Dès que la crise a pris la tournure que nous connaissons aujourd'hui, conflit armé, nous avons proposé au gouvernement qu'à défaut pour le président en fonction d'aller dans les régions anglophones pour tenir un discours d'apaisement, qu'il envoie une délégation politique composée des représentants, disons des membres du Parlement représentant divers partis politiques à l'Assemblée nationale, composée des leaders religieux et des leaders de la société civile ainsi que des chefs traditionnels, porteurs d'un message de paix et d'apaisement. Cela n'est jamais arrivé, et d'ouvrir ensuite le dialogue. Je voudrais indiquer très clairement ce que nous avons proposé comme solution. C'est une approche en quatre points. Le premier point, c'est de remettre en liberté, de libérer tous les prisonniers politiques anglophones arrêtés dans le cadre de cette crise, sans tenir compte des actes posés par les uns et les autres. Et j'ai dit y compris M. Ayouk Tabe Sissikou et ses camarades qui ont été condamnés récemment à la peine à vie, à l'emprisonnement à vie, et qui sont détenus à la prison principale de Yaoundé. Il faut les libérer pour leur donner la possibilité d'abord de respirer, d'aller voir ce qui reste de leur famille dans les zones en question, mais surtout de se concerter entre eux pour arrêter leur position et désigner leurs représentants à ce dialogue.
Voilà, alors Claude Abbé, faut-il libérer les leaders séparatistes comme le demande Maurice Kamto?
Oui et non. Oui, pourquoi? Parce que, de mon point de vue, il faut bien que si on veut faire un dialogue au sens propre de ce terme-là, il faut que les gouvernements camerounais aient en face d'eux une partie et des acteurs avec qui dialoguer sur cette question-là. D'un autre point de vue, parce que il y a une dimension politique et puis il y a une dimension juridique dans cette affaire qui fait que probablement un certain nombre, je n'ai pas connaissance du fond du dossier, un certain nombre serait probablement allé un peu plus loin que ce qu'on aurait pu s'attendre, et de ce point de vue-là, il ne faudrait pas encourager d'autres Camerounais installés à l'intérieur du pays à prendre les armes contre l'apathie. De mon point de vue, ce serait un blanc-seing de dire qu'il faut libérer tout le monde sans nécessairement voir comment le faire et qu'est-ce que cela peut avoir comme contre-effet sur le reste de la société.
D'accord. Et vous, Ellie Smith, faut-il, oui ou non, libérer les séparatistes emprisonnés au nom du dialogue et au retour à la paix?
Oui, nous avions toujours encouragé, et nous pensons qu'il faut libérer tout le monde, en particulier Ayouk Tabe Sissikou, parce que c'est l'idée emblématique du nationalisme anglophone. Vous savez, ce n'est pas seulement en 2012 que le problème anglophone a commencé. Ça date depuis 1972, la fin du système fédéral.
Donc, Human Rights Watch a également indiqué qu'une centaine de personnes ont été enlevées par des séparatistes juste avant les élections. Comment est-ce qu'on peut dialoguer dans ce contexte?
Non, les séparatistes ne sont pas les anges, en particulier ceux qui ont décidé de prendre les armes. Il y a toujours eu un relan indépendantiste dans la partie camerounaise, anglophone du Cameroun, en particulier depuis la fin du système fédéral. Mais ceux qui ont pris les armes, personnellement, je ne peux pas encourager les gens de prendre les armes. Ceux-là sont condamnables parce que eux, ils sont d'autant violent et intolérant que le système à laquelle ils ont pris les armes pour combattre. Mais je voudrais dire ici, comme le feu McCain, je ne voudrais pas faire le false equivalence en termes de violence, mais pour que la paix revienne au Cameroun, il faudra qu'on ait le courage de s'asseoir et discuter. Mais ça a même déjà commencé quand il y a eu le dialogue, le grand dialogue national. C'est un début et c'est aussi une reconnaissance qu'il y a un problème anglophone au Cameroun.
Oui. Morgane Palme, pour qu'il y ait justement un dialogue, il faut que chacun fasse un geste. Comment est-ce qu'on peut arriver à se mettre autour d'une table dans ce contexte?
Je crois que la responsabilité, elle est gouvernementale. Vous savez, il y a quelques mois à rebours, ils ont appelé un grand dialogue national, mais qui n'était pas inclusif, hein, parce qu'on a bien vu que plusieurs acteurs de la scène, en tout cas parmi les plus représentatifs, les plus légitimes, n'avaient pas été conviés sur la table. Nous, à l'époque, nous appelions d'ailleurs aux États généraux du Cameroun, parce que pour nous, la trinité essentielle qui doit battre aujourd'hui le rythme de notre pays, c'est de rassembler, réconcilier les Camerounais pour reconstruire le Cameroun. On est parti sur les procès d'individus, alors qu'aujourd'hui, c'est tout le procès de notre système qui doit être refait. Et pour ça, nous pensions qu'il fallait des états généraux inclusifs, parce qu'effectivement, si on convoque aujourd'hui un dialogue pour régler que la question du Nord-Sud-Ouest, sachant que la problématique auquel on est confronté au Cameroun aujourd'hui est celle du partage de la richesse, la redistribution des ressources, puisqu'on a un phénomène, nous avons la majorité actuelle qui a confisqué toute la fortune publique, elle a pris en otage l'ensemble des ressources. Ça crée quoi ? Ça crée des antagonismes, ça exacerbe la haine et des aigreurs. Donc nous pensons qu'il faut sortir de cette privatisation des profits et mutualisation des pertes dans lesquelles on est, parce qu'aujourd'hui, tous les conflits que vous voyez au Cameroun tournent autour de la répartition.
Et la diaspora dont vous êtes membre, comment est-ce qu'elle suit tout cela et qu'est-ce qu'elle peut faire, qu'est-ce qu'elle compte faire?
Mais elle suit tout cela avec la mort dans l'âme, surtout de savoir qu'en face, on n'a pas vraiment des interlocuteurs qui sont dans la responsabilité. Rendez-vous compte, on a des millions de gens, plutôt des milliers, j'allais dire, de gens qui meurent au Cameroun aujourd'hui sur les différents théâtres d'opération, mais ça n'a pas l'air d'émouvoir. Quand on entend des discours en guise de rhétorique, on nous sert des rhétoriques guerrières, des rhétoriques méprisantes. Je crois qu'aujourd'hui, au Cameroun, ce qu'il faut, c'est que l'humilité puisse habiter les différents cœurs, qu'on soit capable de faire, comme vous le disiez tout à l'heure, un pas l'un vers l'autre, et ça nécessite pour ça que chacun soit armé d'un peu d'humilité. Et la diaspora, elle regarde ça avec dépit, parce qu'on sait que le Cameroun aujourd'hui, c'est un formidable vivier de ressources humaines. Il suffirait simplement qu'on mette tous ces gens ensemble pour qu'ils travaillent à faire du Cameroun un pays, une puissance sur les années à venir. Donc, s'il y a un message que nous souhaitons adresser aujourd'hui à l'ensemble de la classe politique, parce que ce soir encore à Paris, je ne sais pas si vous êtes au courant, on a une agression de Camerounais par certains groupes antagonistes qui sont nés, qui ont été encouragés par la gouvernance actuelle, parce que exercer leur activité permet de détourner l'attention de l'opinion sur l'essentiel de notre pays, le bilan catastrophique de notre majorité actuelle. Donc, nous, on appelle évidemment au rassemblement, on appelle à la réconciliation des Camerounais, parce que toute les façons, les grands États périssent dans la discorde, les petits États grandissent dans la concorde.
D'accord. Et justement, professeur Abbé, est-ce que la crise en région anglophone éclipse un peu ce qui se passe dans l'extrême nord, qui est aussi un autre problème aussi sérieux, sinon plus sérieux aussi?
Il faut serrer les deux situations, c'est-à-dire que même si il faille qu'aujourd'hui les Camerounais se mettent autour de la table, je voudrais vous dire que compte tenu du contentieux historique qui existe entre les Camerounais d'expression anglaise et ceux d'expression française, ceux d'expression anglaise ne comprendraient difficilement que vous traitiez d'une question qui les concerne en mettant sur la même table des djihadistes qui en réalité prenant appui sur une idéologie revendiquent un califat.
Je parlais principalement de l'aspect sécuritaire, pas forcément dans l'idéologie ou les revendications.
Non, au niveau de l'aspect sécuritaire, effectivement, l'une et l'autre sont des crises sécuritaires. Maintenant, il faut tenir compte de la singularité de chacune pour les adresser.
D'accord, merci beaucoup. Alors, peut-être en 5 minutes, Élie, un dernier mot, on va se quitter dans 5 secondes plutôt. Élie, si vous n'êtes pas là, de toute façon, on est au terme de cette émission, malheureusement.
J'ai pas compris la question.
Malheureusement, nous arrivons au terme de ce Washington Forum. Merci à nos invités et à vous qui nous avez suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site Internet et sur notre page Facebook, sans oublier, bien sûr, nos télépartenaires sur le continent. Je remercie toute l'équipe. À très bientôt. Au revoir.
Thank you.